Bonsoir à tous. Commence l'enregistrement en mairie de Tille, la séance du conseil municipal du 17 septembre 2020 à 20h30 avec un enregistrement intégral et sans pause. Concernant les pouvoirs, Estelle Grumet donne pouvoir à Victor Passarella qui pour l'instant n'est pas arrivé. Il me convient de désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Cela fait sourire, mais...
Moi, je veux bien, mais...
Catherine. Catherine, à qui ?
Et il y a le pouvoir d'Angélique qui me donne... Enfin, il y a Angélique qui m'a donné le pouvoir de...
Oui, mais je ne l'ai pas sur le papier.
Comment ? Je l'ai envoyé par mail. Hein.
Ah, mais tu l'as par mail ?
Oui.
Oui. Donc, pouvoir de Angélique Hernandez à Delphine Biennou. Qu'il faut remplir. Je vais faire circuler la feuille de présence et ainsi que le compte-rendu du précédent conseil municipal du 31 août. Je fais suivre. Nous devons approuver le compte-rendu de ce fameux conseil du 31 août dernier. Donc, je voudrais savoir si vous en êtes d'accord. Ah, voilà Victor.
Bonsoir
Victor. Donc, je mettais à votre approbation le dernier compte-rendu du conseil municipal du 31 août. Y a-t-il des oppositions ? Je n'entends pas ce que tu me dis. J'ai dit déjà le message d'enregistrement. Oui, je l'ai dit. Donc, excusez-moi, je reviens à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 31 août. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions approuvées, je vous remercie. Nous allons donc procéder à la première délibération de ce conseil municipal qui doit nous autoriser à demander une demande d'autorisation d'urbanisme pour des travaux en mairie. On l'a fait un petit peu à l'envers, puisque l'ancienne municipalité avait commandé des travaux concernant la mairie dans le cadre de la rénovation énergétique pour changer les fenêtres et les volets. Je ne vous cache pas, parce que vous passez tous devant la mairie, que les travaux sont faits. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas eu de délibération nous permettant, autorisant la mairie à faire une demande d'autorisation d'urbanisme. Donc cette délibération sert à approuver la demande d'autorisation d'urbanisme. Pour ne rien vous cacher, nous avons déjà fait le dépôt de cette demande d'autorisation d'urbanisme qui a heureusement été acceptée puisque les fenêtres et les volets ont déjà été changés. Donc c'est du pur formalisme, mais je dois vous solliciter pour pouvoir approuver et nous autoriser à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme pour des travaux en mairie. Donc c'est ce que je fais ce soir en vous demandant s'il y a des votes contre, des abstentions. Eh bien tant mieux, je vous remercie, adopté à l'unanimité, c'est mieux.
Pour remettre les anciens.
Pour remettre les anciens, ça allait être un petit peu dur, je pense. Hein.
Je pense qu'ils sont bien partis à la belle.
Je crois. Oui, parce que les travaux, pour ne rien cacher, ont été faits au mois de juin. Donc, La deuxième délibération, c'est une convention que nous souhaitons passer avec 30 millions d'amis. Simplement pour vous informer que pour des raisons pratiques et de sécurité, il y a lieu de signer cette convention afin de procéder à la stérilisation des chats errants sur la voie publique. L'ancienne municipalité n'avait pas renouvelé la convention qui la liait à la SPA. Depuis le Covid, il y a eu beaucoup de chats qui ont été abandonnés. Et dans tout le village, vous pouvez voir circuler beaucoup de chats errants. L'objectif, c'est de pouvoir les capturer, les emmener chez un vétérinaire agréé, 30 millions d'amis, et de pouvoir les stériliser. Si nous signons cette convention avec 30 millions d'amis, c'est pour pouvoir donc mandater. Nous avons la chance dans le village d'avoir une personne qui est volontaire et qui est donc volontaire pour pouvoir disposer les cages, les captures, emmener les chats à la stérilisation, les ramener et les remettre, et les replacer dans leur habitat. Donc on a cette chance-là. Une fois qu'on aura conventionné avec la police municipale de Bénaud l'année prochaine, puisqu'elle ne rentrera en service, comme je vous avais expliqué, au 1er mars 2021, la police municipale de Bénaud pratique ses captures sur la commune de Bénaud depuis longtemps. Donc ça nous sera aussi une grande aide. Mais là, pour le coup, et pour l'urgence, parce que c'est vrai que c'est un problème, on a déjà vu, il y a des bébés qui sont nés, on a essayé avec les services techniques de les capturer, on n'a pas réussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont déposé des plaintes également pour les nuisances que ça peut engendrer. Et puis surtout, il y a un moment où il faut stopper cette reproduction galopante. Donc ce partenariat donc, concerne la stérilisation des chats libres afin d'éviter leur prolifération. Le montant forfaitaire de l'indemnité pour la réalisation des prestations proposées dans le cadre de cette convention est fixé donc à la somme de 60 euros par chat mâle et 80 euros par chat femelle stérilisé. Ces montants sont répartis à parité entre la commune et 30 millions d'amis. C'est-à-dire que 30 millions d'amis nous donnent la moitié de la somme. Donc pour l'année 2020, la commune, nous prévoyons une enveloppe maximale de 700 euros correspondant à la stérilisation de 10 chats mâles, 10 chats femelles, donc de 20 chats. Donc c'est pourquoi je vous demande de m'autoriser à signer le partenariat en vue de la stérilisation des chats errant dans les lieux publics de la commune pour un montant maximal de 700 euros. Cette dépense sera mandatée à l'article 6288 du budget 2020. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote ou des remarques ou
Oui, je voudrais savoir pourquoi le partenariat avec la SPA, pourquoi 30 millions d'amis et pas la SPA ?
Parce que en fait, on a une personne qui appartient à 30 millions d'amis et qui s'est proposée dans ce cadre-là de s'occuper de tout. Donc c'était beaucoup plus, je dirais, entre guillemets, confortable pour nous de passer cette convention avec 30 millions d'amis. Surtout que la SPA, il faut fournir le matériel qu'on n'a pas. Alors que là, la personne est là. Enfin, donc c'est pour ça que nous avons plutôt opté pour 30 millions d'amis.
Bon, très, très bien. Et deuxième question, y a-t-il un risque des chats qui appartiennent à des gens qui néanmoins sont en extérieur se fassent attraper et en quel cas.
Alors, le risque existe toujours. Je dirais que quand on a un animal, on essaye de s'en occuper et de ne pas le laisser divaguer sur le domaine public. Malheureusement, ceci peut arriver. Je dirais que si l'animal est pucé, le vétérinaire va regarder, bien évidemment, avant de stériliser l'animal, s'il est pucé, qu'il a un propriétaire, donc auquel cas c'est facile de retrouver le propriétaire. Malheureusement, je dirais que oui, ça peut arriver.
Mais dans ces conditions, j'entends cette explication, est-ce qu'on ne s'expose pas à un risque contentieux de litige si par malheur
dans notre bulletin d'information on va faire un article avant de procéder, c'est-à-dire que la convention si je la signe aujourd'hui la capture va pas avoir lieu demain. Évident que avant de procéder à cette opération on va bien évidemment signer la convention avec 30 millions d'amis mais également publié dans le bulletin que l'on va faire paraître au mois d'octobre, rappeler la procédure et donc pour que tous les habitants aient reçu l'information. Après, bien sûr, tout peut arriver, mais je dirais que c'est toujours le même phénomène. Laisser divaguer son animal sur la voie publique, c'est aussi de la responsabilité du propriétaire.
Les chats, c'est un peu particulier.
Bah non, je suis un chat, un chien, à ce moment, à ce moment-là.
Où il a un collier, donc.
Oui, où il a un collier, où il a, enfin, un pucé, un collier.
Il serait prudent, effectivement, de prévenir. Bien avertir les risques.
C'est pourquoi, avant de procéder à cette opération, ça sera indiqué dans la communication qu'on va faire par écrit aux habitants. On le rappellera bien évidemment sur le Facebook, etc. Et on donnera bien sûr sur le Facebook, par exemple, les dates à laquelle ça va se produire. Hein. Mais bien sûr, on n'est pas à l'abri. Mais voilà, les gens le... Voilà, il faut en être conscient.
Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je soumets donc cette délibération à votre vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Approuvé à l'unanimité. Ensuite, la délibération suivante, je vais un tout petit peu laisser la parole à Vincent Traclet pour la demande de subvention au département pour aller chercher les sous.
Alors, la subvention, la délibération concerne des futurs aménagements qu'on a prévu de faire au City Stade. Parce que le gazon synthétique du City Stade arrive à terme. Il a été mis en 2008. Donc là, on est en 2020, il commence à être bien fatigué. Et au niveau de la sécurité, ben, il faut faire quelque chose. Et en plus, on a dans l'idée de moderniser un peu cette zone, de la faire évoluer, parce que depuis 2008, ben, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, à part le remplacement d'un petit cheval à ressort, il me semble, qui a mis longtemps à être remplacé. Et il n'y a aucun aménagement qui a été fait. Donc l'idée, c'est d'aller chercher une subvention auprès du département à hauteur de 30% d'un montant total de 50 000 euros prévu pour moderniser, remplacer le City Stade plus, essayer de mettre des structures fixes comme des machines de fitness, des jeux pour enfants, et il y a aussi une cage de crossfit qui est prévue a priori. Tout ça, bien sûr, avant, ce sera présenté, sera soumis à discussion avec des tilois lors de commission, et puis avec la commission travaux voirie. Donc voilà, donc ça représenterait, si on arrive à avoir cette subvention, on peut avoir une aide jusqu'à 15 000 euros et à charge de la commune, il resterait 35 000 euros qui sortiraient de notre poche. Sachant que rien que le gazon synthétique, déjà, il y en a pour 18 000 euros de mémoire. Donc voilà.
Oui, voilà. Mais là, pour le coup, le gazon synthétique, c'est presque une obligation. Enfin, c'est une obligation parce que c'est un vrai danger. Je crois qu'il y a des endroits où on ne peut même plus jouer puisque c'est une
ça glisse,
patinoire.
Ouais. C'est une patinoire après. Donc voilà. Et surtout, garder l'esprit de ce complexe qui fonctionne plutôt bien, parce que c'est un peu multigénération. Il y a des tout-petits, il y a des plus grands. J'y suis encore repassé plusieurs fois pour faire quelques devis. C'est vrai qu'il y a zéro tag. Il y a quelques planches de bois qui sont cassées, mais c'est plus dû au ballon qui frappe dedans qu'à autre chose. Donc c'est vrai que bon, alors, des fois, il y a quelques canettes de bière qui traînent, etc. Mais ça, bon. Voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et le but c'est de le faire évoluer pour que les parents ils puissent faire un peu de musculation quand ils surveillent leurs enfants et puis voilà, et que ce soit un peu plus attractif encore que ça ne l'est. Voilà. Il faut que je dise qui est pour, qui est contre. Non, je te laisse faire ça.
Comme tu veux. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce...
Oui. Oui. Pour le City, Vincent, oui. Est-ce qu'il y aurait un moyen, enfin moi je passe souvent devant en courant, et il est rare quand j'ai pas une altercation avec quelqu'un, soit parce qu'il y a des chiens. Mm-hmm. Très souvent c'est des chiens, les gens, bon alors c'est des petits, les gens disent qu'ils ramassent et tout. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver une solution pour...
Après, le problème, c'est qu'il y a, a priori, j'ai pas été voir, mais il y avait un règlement interdit. Enfin, normalement, il y a un panneau qui dit que c'est interdit aux chiens. Après, le souci, c'est que malheureusement, pour le moment, il faut aussi. Là, on va voir le CAUE la semaine prochaine pour réfléchir à l'ensemble de la zone. Parce que c'est vrai que cette zone, elle a été fermée et condamnée par des tranchées avec des barrières un peu à la sauvage. Et que c'est vrai que c'est pas top. Donc, il va falloir avoir une réflexion. Après, il faut permettre permettre aussi à tout le monde et à la future police municipale d'y aller. Parce que c'est sûr que si l'accès n'y est pas et que la police municipale, elle ne peut pas accéder en voiture, ils ne vont pas y aller souvent. Voilà. Donc après, malheureusement, le civisme, il faut qu'on le fasse respecter. C'est comme les gens qui se garent sur les trottoirs, ceux qui grillent les feux rouges. Voilà. Après, il y a ceux qui respectent. Et voilà. Et puis il y a ceux, malheureusement, il y a aussi, moi, une fois, j'ai vu des scooters qui étaient... Alors, à l'intérieur du truc, mais il y en a même des fois qui arrivent à rentrer le scooter sur le gazon synthétique. Donc, voilà.
Ah oui, moi, j'ai vu du scooter voilà. Qui circulait dans le site.
Donc, voilà. Après, il y a plein d'aménagements qui font. C'est vrai qu'il y a des aménagements avec des tourniquets où déjà, pour rentrer un scooter, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une réelle réflexion. Après, honnêtement, pour m'occuper un peu de sport et en tournant un peu... C'est un des city stades au niveau des tags et de l'entre. Enfin, quand on va dessus, honnêtement, il y a les structures de skatepark, il n'y a rien, il n'y a pas un tag. À Béno, par exemple, qui est pourtant un city stade qui est fermé, ils ont eu des tags. Pourtant, il est fermé à clé, c'est contrôlé, c'est ouvert qu'à certaines heures. Et c'est vrai que c'est plutôt, pour l'instant, bien respecté. Donc, j'espère que ça continuera. Donc, après, il faut que les jeunes qui l'avaient fait en 2008. Parce qu'ils avaient été acteurs du projet en 2008, ils le respectent et qu'ils le fassent respecter. Voilà. Après, il faut continuer dans ce sens-là. Donc, voilà. Après, c'est sûr qu'on voilà, n'est jamais à l'abri d'une personne qui va rentrer son chien, qui va rentrer son vélo. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Mais c'est le civisme. Hein, on en a tous les jours, malheureusement, on a des petits rendez-vous qui nous rappellent qu'il y a des personnes qui ont plus de mal que d'autres à respecter les panneaux.
Y compris les Tillois aussi, je tiens quand même à le préciser, puisque au niveau de l'école, on a pourtant, lors de la réunion que j'ai faite quand il y a eu la réouverture de l'école, sensibilisé les Tillois de pouvoir se garer quand même au niveau du parking du cimetière, et que franchement, c'est très difficile de faire respecter. Et pourtant, le parking du cimetière, il est quand même pas très très loin pour pouvoir emmener son enfant à l'école, quoi. Donc, et c'est vrai qu'il y a des fois où vraiment, malgré toutes les remarques qu'on peut faire, etc. Donc, avec l'arrivée l'année prochaine de la police municipale, ça risque au bout d'un moment de moins bien se passer, mais finalement, souvent les Tillois disent, il y a des gens qui roulent trop vite, etc., etc. Mais pour le coup, l'école, c'est quand même, je pense, les Tillois qui amènent aussi leurs enfants. Donc.
Après, il est vrai que les nouveaux aménagements de potelets et tout ça, c'est quand même moins de bazar.
Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau de la place, tous les potelets qui ont été mis en place ont fait qu'il y a quand même déjà un petit peu moins de voitures garées un petit peu dans tous les sens. Mais bon, revenons au City Stade, et c'est vrai que l'incivilité, c'est...
Voilà. Oui, j'ai une question technique. Le revêtement qui est prévu aujourd'hui, est-il le même dans l'esprit, dans les grandes lignes, que celui qu'il y avait eu il y a 12 ans Il y a des évolutions techniques qui pourraient être intéressantes de partager. C'est une question de curiosité.
Alors, non, mais c'est une bonne question. Il faut savoir qu'en ce moment, sur l'Europe, il y a deux fournisseurs de gazon synthétique. Donc voilà, on a fait faire 3 devis. Mais bon, les devis, c'est la marge en fait du fournisseur qui change, mais ils se fournissent partout. D'accord. Après, il y a des hauteurs de gazon, ça va de 18 jusqu'à 25 mm de hauteur. Nous, on est parti sur 23, je crois, de mémoire. Et là, le choix qu'on a, c'est de choisir la couleur du gazon, parce qu'on n'est pas obligé de remettre un gazon vert. On peut mettre un gazon jaune, bleu, ocre. Donc voilà, il faudra se positionner là-dessus. Et la bonne nouvelle au niveau... c'est qu'on peut reposer le gazon sur le gazon existant. On n'est pas obligé de l'enlever, parce qu'il y avait quand même pour 4000 euros, je crois, dans un devis, pour l'enlever. Et là, la solution technique, nous disent qu'on peut reposer dessus. Donc, voilà. Après, il n'y a pas trop de...
Il n'y a
pas d'évolution notoire dans ce type de... Il n'y a pas de révolution sur un gazon...
Non, mais peut-être des fois... L'amélioration des matériaux fait que c'est plus résistant, ça va peut-être durer 20 ans.
Après, surtout, il faut être vigilant. Ce qui s'est passé, c'est pas pour incriminer personne. Hein. C'est qu'il y a une technique spécifique pour l'entretien du gazon. Mm-hmm. Et c'est vrai que là, en fait, on a rajouté depuis des années du sable sans brosser le gazon avant.
Ouais.
En fait, il faut passer une herse pour faire ressortir les picots et remettre toute la fibre droite. Et après, une fois que c'est tout remis droit, on regarde s'il faut vraiment remettre du sable, parce que des fois, rien qu'en faisant ça, ça suffit. Mais là, en fait, comme on a remis du sable et du sable dessus, ça a écrasé la fibre. Et quand il joue dessus, bah, la fibre, elle s'écrase et elle disparaît. Donc après, ce qu'il faut être vigilant, bah, voilà, c'est soit on a un service technique qui est capable de faire l'entretien, soit après, il faut essayer peut-être tous les ans ou tous les deux ans de faire intervenir un professionnel qui fait l'entretien, qui remet un coup comme il faut. Et au moins, on peut peut-être le garder quelques années de plus. Après, là, on arrive aussi, on est à la dixième année et voilà, on arrive limite.
Pour comprendre la durée de vie, ce genre de produit, ça marche. Ok, bon, merci.
Voilà, donc là, c'est simplement donc pour, simplement non, mais pour autoriser à déposer un dossier de demande de financement pour solliciter les subventions issues de la dotation territoriale mise en place par le département de l'Ain pour un montant de 15 000 euros. Donc, est-ce qu'il y a... Il n'y a plus de questions? C'est bon?
On n'a pas voté 30 millions de...
Non, c'est le tout, c'est 50 000 euros.
Non. Non, on n'a pas voté 30 millions d'amis?
Si, on a voté les chats, on a voté. 30 millions d'amis, si. Je croyais que c'était 30 000 euros.
Non, non, là, c'est la, comment dire, c'est la demande de financement. Comment ? Six coups de fatigue.
Mes lunettes de soleil.
Mes lunettes de soleil, d'accord. Ok. Donc, est-ce qu'il y a, donc, pour cette demande de subvention, des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne la formation des élus. Puisque maintenant, c'est une loi donc, de 2002 qui offre un droit à une formation adaptée à chaque fonction des élus municipaux. Donc, suite au renouvellement de l'Assemblée, cette délibération détermine les orientations de la formation et les crédits que l'on doit ouvrir à ce titre. Un tableau donc récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Donc, depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. C'est un montant théorique prévu par les textes, majoration y compris, sans pouvoir dépasser bien sûr une somme de 20%, enfin un montant de 20%. Donc ce droit à la formation, selon l'article du Code général des collectivités territoriales, est un droit à une formation limitée à 18 jours pour les élus qui sont salariés, fonctionnaires ou contractuels pendant la durée du mandat. L'organisme, bien sûr, dispensateur de formation, doit être obligatoirement agréé par le ministère de l'Intérieur au titre de la formation des élus. À défaut, cette demande serait écartée. Donc la commune est chargée de mandater un organisme de formation pour régler les frais d'inscription et d'enseignement, le remboursement des autres frais de formation s'effectuant sur justificatif présenté par l'élu. Pour mémoire, ceux-ci comprennent donc les frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, dont le remboursement s'effectue en application des dispositions régissant le déplacement des fonctionnaires de l'État. C'est un arrêté de 2006 qui détermine un taux d'indemnité kilométrique. Les frais d'enseignement également, la compensation de pertes éventuelles de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l'élu et plafonnée à l'équivalent donc de 18 jours par élu et pour la durée du mandat. Elle est de même nature que l'indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et CRDS. Donc, conformément à la loi de 2019, une formation sera obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation au sein de toutes les communes et communautés de communes, des communes d'agglomération, des communautés urbaines et de métropole. Donc, en fait, ce que nous devons faire, c'est délibérer et voter ce soir pour que chaque élu puisse bénéficier pendant la durée de son mandat de droit à la formation selon ses souhaits. Les thèmes qui sont retenus et privilégiés sont les finances publiques et la gestion budgétaire, l'urbanisme et les fondamentaux de l'action publique locale et du management public. Le principe d'allouer dans le cadre de cette préparation, de la préparation du budget, une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux, la somme étant plafonnée à 2 500 € par an, conformément à la réglementation en vigueur. Pour vous expliquer un petit peu le principe, le but, c'est pas de dire on va dépenser 2 500 €. Au contraire, le but, c'est d'aller chercher surtout des formations gratuites. On est obligé donc de mettre cette somme en réserve pour la formation des élus, mais on n'est pas obligé de la dépenser. Et le but, c'est par rapport à des organismes qui existent, comme l'Association des maires de France, par exemple, auquel on adhère, de pouvoir participer à des formations qui sont dispensées de manière gratuite. Le problème, c'est qu'en ce moment, c'est très compliqué par rapport au Covid, parce que toutes les sessions de formation ont été soit annulées, soit repoussées. Il reste quelques formations, notamment au niveau du SIEA, on a reçu un document en visioconférence. Donc ça, il va y avoir la possibilité. Donc ça, c'est des formations gratuites hein, qui sont sur 1 ou 2 heures. Mais c'est quand même pas quelque chose qui amène à vraiment rentrer dans une formation un peu plus approfondie. Quoi, hein. Mais donc le but, c'est vraiment donc de bloquer cette somme puisque la loi nous y oblige. Le but, ce n'est pas non plus de la dépenser. Voilà, c'était pour... vous donner ces précisions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à...
2 500 € pour l'ensemble du conseil ou c'est par...
Non.
C'est pas beaucoup dans l'absolu quand on connaît les coûts de formation.
C'est le...
C'est... budget de 2 500 € pour...
C'est bien pour...
Vu, c'est pas grand.
Non, mais c'est pas
oui.
Grand.
Oui, mais c'est bien pour ça, si tu veux, qu'il existe au sein de toutes les associations d'élus, le SIEA, etc., ce sont des organismes auxquels on adhère, des possibilités de faire des formations gratuites. Parce que c'est, heureusement, bien sûr, parce que c'est vrai que 2 500 €, c'est rien du tout pour quand on connaît les coûts des organismes de formation. Mais le but, justement, c'est on a cette somme en réserve, donc elle va pouvoir être mise en réserve d'une certaine manière, mais le but c'est vraiment de trouver des formations gratuites. Et normalement, habituellement, il y en a pléthore, quoi. Mais là, le problème Covid fait que du coup, tout est quand on téléphone, ah ben non, c'est pas. Enfin, l'AMF pour le coup, l'Association des maires de France, qui distille beaucoup de formations, pour l'instant n'a plus déterminé de calendrier. Alors que normalement, tous les élus de Thiel qui ont une délégation doivent, dans leur première année d'élu, faire au moins une formation. Voilà. D'autres questions? Nous avons donc procédé au vote. Si vous le voulez bien, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées. Je vous remercie. Et pour conclure, je vais passer la parole pour la dernière délibération à Olivier concernant les décisions de finances.
Bonsoir, du coup, il y aura 3 délibérations en réalité là, sur les décisions modificatives, donc on va vous faire voter successivement. La première décision modificative, qui est la deuxième en réalité, puisqu'on avait déjà une qui avait été faite avant l'été, vous propose de réajuster les lignes de fonctionnement et d'investissement, puisqu'il y avait un montant qui était prévu dans le cadre du budget de transfert de 500 000 euros environ en dépenses de fonctionnement vers l'investissement. Il y a environ 200 000 euros seulement qui sont rentrés dans le budget en investissement. Donc en fait, il y a eu une mauvaise affectation des lignes au moment du montage du budget par la précédente municipalité, ce qui fait qu'il faut réajuster les recettes en investissement. Donc la décision modificative qui vous est proposée propose de réintégrer du coup 304 053 euros pour rééquilibrer le transfert pour qu'il soit égal des deux côtés, ce qui est un peu le principe de ces lignes. Et on vous propose pour l'instant de les affecter sur 3 lignes, sur travaux mairie, acquisition sur les bâtiments communaux et groupes scolaires, qui sont des lignes d'attente en réalité, en vue de futures opérations s'il y a lieu, mais qui sont surtout là pour équilibrer le budget. On verra si... d'ici la fin de l'année, il y a nécessité de les mobiliser ou non, mais en tout cas, elles ne nécessitent pas aujourd'hui d'engagement financier. Donc, la délibération vous propose d'accepter ces transferts.
Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? L'abstention? Adopté.
Donc on propose une autre décision modificative qui, elle, n'est pas une décision de mouvement financier, mais qui est bien une qui est des mouvements financiers, mais qui est sur des opérations réelles, pour le coup, puisqu'elle va concerner quatre dépenses d'investissement qui n'étaient pas prévues dans le cadre du budget. Donc ce budget doit cette délibération doit permettre de les prévoir. Donc il y a le site internet qu'évoquait tout à l'heure Valérie, sur lesquels donc il y a 2 300 € qui sont prévus dans le cadre du budget. Les travaux sur la salle des fêtes à hauteur de 1 296 € pour remplacer la VMC. Des boîtes aux lettres, puisque vous avez vu que les boîtes aux lettres au niveau de l'école sont plus que détériorées. Donc il y aura des nouvelles boîtes aux lettres qui seront installées à côté de la mairie, qui serviront du coup à la mairie, à l'école et éventuellement à des associations également. Une dépense à hauteur de 499 € au titre de l'achat d'un PC portable, puisque la mairie n'était pas dotée aujourd'hui en PC portable et il y avait nécessité d'avoir un PC, puisqu'aujourd'hui on navigue un peu avec les PC perso des uns et des autres et pas forcément l'accès non plus au serveur, donc ça fera partie aussi des sujets à venir sans doute. Donc on vous propose, en cas de cette décision modificative, de pouvoir engager ces quatre dépenses. Dernière décision modificative qui vous est proposée. Là, on ne va plus être sur de l'investissement comme tout à l'heure, on est sur du fonctionnement. Cette fois-ci, il s'agit de transférer des crédits qui étaient sur des dépenses imprévues en termes de fonctionnement sur des dépenses pour du personnel, donc à la fois sur les lignes en personnel titulaire et en personnel non titulaire. Deux raisons par rapport à ça. Par rapport au personnel titulaire, il est proposé il y a deux personnes qui sont stagiarisées qui vont être titularisées d'ici la fin de l'année, donc les lignes budgétaires n'étaient pas suffisantes pour couvrir les salaires tels qu'elles étaient prévues sur cette ligne-là. Et pour le personnel non titulaire, on a dû faire appel à des renforts suite à l'absence d'une secrétaire, pour renforcer également l'équipe technique durant l'été. Donc ces dépenses-là ont fait augmenter la ligne, et la ligne était déjà très juste quand on est arrivé. Donc de fait, il faut réabonder cette ligne budgétaire. Donc dans la délibération, vous voyez à la fois le personnel titulaire, non titulaire et les cotisations qui en découle pour les non-titulaires, pour l'URSSAF et la CEDIC.
Qu'est-ce qui était titularisé?
J'ai plus en nom et tête en tête et je ne sais pas si on l'a dit en conseil par ailleurs. Mais c'est deux agents de l'école en tout cas.
L'effectif de personnes communales pour prendre une personne, c'est ça?
L'effectif de...
Ah, étant donné qu'à la mairie, il y a une secrétaire qui est malade, il a fallu procéder à son remplacement.
Le nom titulaire, mais la titularisation des stagiaires.
C'est des personnes qui étaient déjà en poste.
Qui sont en poste, mais qui deviennent titulaires. Donc je pense qu'il y a eu un réajustement au niveau du salaire par rapport à ce passage.
C'est normal. C'était juste pour comprendre que le nombre d'éléments
n'évolue pas.
Non.
Est-ce qu'il évolue?
Non. Non. Non, c'est juste, en fait, la ligne qui avait été votée, c'était trop juste. Et donc, il faut réaffecter, en quelque sorte, un peu d'argent pour pouvoir les payer.
Voilà. Rémunérer comme des stagiaires à vie, bien sûr.
C'est ça.
C'est des stagiaires au sens de la fonction publique.
Oui, c'est des stagiaires au sens de la fonction publique. C'est avant titularisation. C'est le terme fonction publique, mais ce n'est pas des stagiaires tels qu'on l'entend dans une entreprise.
Oui, mais ça s'accroche maintenant à la grille.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie. Et donc, cette délibération clôt donc ce conseil municipal en mairie-t-il le jeudi 17 septembre à 21h07.